Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport ce matin, c'est la deuxième heure avec Christophe Cessieux, avec Fred Weiss, avec Cédric Emmons qui est là et avec Alizé Cornet. Alizé qui a été particulièrement performante sur France-Afrique du Sud tout à l'heure parce qu'elle a des taupes à la Fédération Française de Tennis qui la briefe sur le rugby.
On s'entend.
Je m'entends plus. Ouais.
Quel bonheur, merci. Hein. Merci à Max d'avoir trouvé son micro.
Merci à la technique, ça nous
merci
fait du bien.
Merci à la technique, ça fait du bien.
Il y a Didier Retière, c'est ça, qui était dans le staff du 15 de France.
J'ai pris Didier Retière en tant qu'adieu et je lui ai demandé son avis et c'était très très intéressant. On a parlé 30 minutes de rugby et j'ai adoré.
Ouais, bon coach Didier Retière.
Belle personne, très bien. Ouais. J'ai apprécié de bosser avec lui.
Elle a pas vraiment réussi à retranscrire ses dires hein, parce qu'on n'a rien compris à ce qu'elle voulait dire.
Attendez,
nous on a surtout parlé du Thomas Ramos, est-il le patron des Bleus?
Ah, on va en parler dans quelques instants.
C'est en fin d'émission, sinon.
À 11h30, tout à fait.
Si je ne m'abuse.
Oh là là, mais tu veux prendre ma place aussi, ça? Tu veux être animatrice pour annoncer le programme? Merci pour la phase décisive.
Il y a écrit quoi sur tes t-shirts, animateur.
La capitaine Cornet qui est avec nous ce matin. Non, c'est la GG qui est là. Dans un instant, on va parler, tiens, de tennis, Alizé. Le remake de la guerre des sexes en tennis. On va avoir droit à ça à la fin de l'année. Zabalenka contre Kyrgios. Souvenez-vous, on avait eu Billie Jean King. On en parle beaucoup ce matin, décidément, qui avait gagné son match il y a quelques années. Ça m'a même donné un film, d'ailleurs.
Il y a quelques années, t'es gentil quand même.
Hein. Ouais,
il y a quelques 73. Décennies, quoi.
Quelques décennies, ça reste quelques années. Ce week-end, on vous offre des places pour France-Ukraine sur RMC. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce jeudi 13 novembre à 20h45 au Parc des Princes. Pour remporter vos places pour France-Ukraine, envoyez France, FRANCE, au 7-32-16, France au 7-32-16.
Tu n'as pas des places pour le match de ce soir
mais tu y vas.
Bah oui, non, mais
tu y vas, tu vas.
Donc tu lances un appel.
Envoyez Christophe. D'abord les GG, gare au nouveau faux pas pour l'OM aujourd'hui.
RMC. Le ring des GG.
Roberto De Zerbi est sur la pelouse. Il est transcendé par l'événement. Il va peut-être se prendre un carton jaune. C'est le cas. De Zerbi dans un état second. Et le rouge. Le rouge. De Zerbi, il est plus maître de lui-même. Et l'égalisation. L'égalisation du SCO Angers qui vient glacer, qui vient climatiser le vélodrome.
Il faut savoir quelle équipe on veut être. Celle qui a eu de la personnalité pour battre le PSG ou celle qui souffle le chaud et le froid.
Et le but de Samardzic. La frappe de 30 mètres. Alors attendez. Parce que s'il n'y a pas de pénalty, il y a un 0 pour l'Atalanta.
Roberto De Zerbi demande et propose la tablette au quatrième arbitre.
Ah, les polémiques.
J'aime les polémiques, je suis venu ici aussi pour ça. J'aime bien parce que vous cherchez la question piquante et je dois chercher la réponse piquante.
Le coaching de Roberto De Zerbi en cours de match qui laisse à désirer, je pense, des incompréhensions très claires, voire des boulettes dans les choix de joueurs, notamment avec la sortie d'Egan Riley.
L'OM est attendu en rattrapage aujourd'hui à 17h avec la réception de Brest pour la 12e journée de Ligue 1. Match à suivre évidemment en direct sur RMC. Les Marseillais, vous l'avez écouté, ont trébuché au Vélodrome face à l'Atalanta cette semaine et restent sur une série de matchs au contenu assez peu convaincant, je vais dire. Même si les Phocéens sont deuxièmes à 2 points du leader parisien ce matin, il faut le dire, hein, Marseille, s'ils gagnent cet après-midi, sont leader du championnat. C'est important
de
le répéter. Mais on sent que le sentiment d'une fragilité se dégage peut-être à Marseille et peut-être sur le banc. Les GG, je vous pose la question ce matin. De Zerbi joue-t-il gros ce soir? Évidemment, je précise, on ne dit pas qu'il joue sa tête, on n'est pas dans un truc complètement caricatural. Mais en termes d'image sur son travail, est-ce que ce match peut compter? Sur le compte X des GG du sport, vous dites oui, comme Cédric, à 54%, non, comme les autres GG, à 46%. On vous attend, supporters marseillais nombreux, au 32-16 et vos messages au WhatsApp 06 12 424 424. Florent Germain a déjà vécu Divi en quelques semaines. C'est normal, il est correspondant à Marseille pour RMC Sport. Salut Flo.
Salut Georges.
Salut Alizé, salut les gars, salut à tous.
Salut.
Flo, est-ce que la défaite face à l'Atalanta cette semaine a laissé des traces à Marseille?
Il y a une pression, c'est sûr, hein, surtout autour de Roberto De Zerbi, c'est vrai. Il y
il y a une période compliquée, notamment on l'a entendu dans la petite prod, les deux contre-performances là, à domicile contre Angers et Atalanta, c'était les premiers sifflets contre Angers et donc contre les Italiens du Vélodrome cette saison, donc quelque part ça peut marquer un petit tournant. Le coach italien il a été critiqué pour son coaching, pour le jeu de l'OM, on s'ennuie un peu parfois au Vélodrome, pour ses compos sans cesse différentes, et puis il a agacé aussi et surtout dans ses analyses, notamment après l'Atalanta Bergame, parce que mercredi il disait non, l'OM n'a pas fait un mauvais match, juste les 20-25 premières minutes. Bah écoutez, hier il avait retrouvé un peu de lucidité.
Non,
les critiques sur la qualité de jeu lors des trois derniers matchs, elles sont justifiées. On a mal joué. Je le dis sans problème et sans honte, et j'en prends la responsabilité. Mais quand on récupérera certains blessés, quand notre jeu deviendra meilleur, ce sera plus facile. Il faut rester digne, solide, ne pas perdre confiance. C'est facile de se sentir 2 mètres au-dessus du sol quand tu bats le PSG. Mais à Marseille, il faut savoir supporter un échec contre l'Atalanta ou contre Angers et accepter les critiques. Alors, à sa décharge, il n'a pas été aidé par les blessures, c'est vrai. Certains joueurs font leur retour, notamment aujourd'hui. Kondogbia, Nadir, Wea étaient sur la pelouse de la Commanderie à l'entraînement hier. Tiens, écoutons justement le fils de Mr. George, Timothy Wea, qui a connu d'autres grands clubs, mais il reconnaît être un peu surpris par cette ambiance pesante autour de l'OM alors que Marseille est deuxième du championnat.
Autour de Marseille, je vois que c'est la crise totale et je comprends rien parce que c'est pas comme si on est dans la 10e place. On est 10e place, 2 points de Paris. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je pense qu'on doit rester concentré sur notre but. On doit pas regarder les autres équipes, ce qu'ils font, tout ça. Non, ça me surprend pas du tout. J'ai déjà joué pour des très grands clubs à Paris au début. Voilà, Juventus. Même en Écosse, j'ai joué à Celtic. Donc, quand tu perds un match, ça défait un peu la folie. Le foot, tu sais, tu peux perdre très vite et boum, tu peux commencer à gagner des matchs très vite. Je pense que c'est important de rester, tu vois, neutre.
Voilà, restez calme. Je résume, il y a de l'impatience côté supporters, mais on s'est renseigné, ils vont bien supporter. Il n'y aura pas de banderole hostile ou une ambiance avec des supporters frondeurs au Vélodrome. Par contre, c'est vrai qu'une première place ce soir, ne serait-ce que provisoire, ce sera un vrai bol d'air pour De Zerbi. On est vraiment à la croisée des chemins. Soit il y a première place ce soir et donc tout va bien ou presque. Soit il y a un parfum de crise. Donc ça résume bien Marseille. C'est les extrêmes. C'est l'un ou l'autre.
Reste avec nous, Flo Germain depuis Marseille. Je précise que Mister George, c'est pas moi, hein, c'est George Weah, pour ceux qui n'ont pas la référence. Après, j'ai aucun problème, parce que vous m'appelez comme ça.
Hein. Mister George.
Ça tirait bien.
Merci, Flo. Cédric, toi, tu dis que oui, De Zerbi joue gros ce soir. Pourquoi ?
Il joue gros parce qu'il est sous pression, on le voit. Il revient sur ses propres analyses. Ils font un bon match. Après, finalement, ils ont fait une partie qui n'était pas convaincante. Ses choix commencent à être critiqués. Il est tendu, énervé sur le banc. Il est à la 2e place, mais quand t'es à Marseille, ça suffit pas. Quand tu es proche de l'élimination en coupe d'Europe, ça suffit pas non plus. Donc oui, il est sous pression. Et puis, s'ils perdent ce soir, ou même s'ils sont accrochés par un match nul, la pression elle va arriver, le vestiaire. Alors oui, il y a des blessés, oui, mais c'est son boulot, quoi. C'est son boulot de mettre une équipe compétitive, d'avoir un style de jeu plus affirmé, et puis surtout ses choix, quoi, ses remplacements sont, au fond, quand on les commande, c'est-à-dire qu'il commence à avoir quand même un petit truc.
Oui, t'as raison, c'est vrai que tu parles de la pression. La pression, après, c'est vrai qu'elle est omniprésente. On sent.
Non, mais quand tu vas à Marseille, tu sais que là, il en joue, ouais, parce qu'il dit qu'il aime les questions un peu.
Ah, mais il aime jouer avec le feu.
Voilà, effectivement. Mais à force de jouer avec le feu, il peut se mettre lui-même au milieu du feu.
Fred.
Je sais pas quoi penser de cette matinée, je suis d'accord avec Cédric.
Mais il t'a fait changer d'avis, en fait?
Non, il m'a pas fait changer d'avis, j'y pensais depuis quelques temps. Et en fait, en regardant les résultats, effectivement, dans l'absolu, il y a rien de catastrophique. Tu as dit, ils sont pas si loin du PSG, ils peuvent repasser premier. Sauf que le contenu est important à Marseille, que s'ils perdaient ce match ou s'ils faisaient match nul, ça ferait 3 matchs de suite, où il y aurait pas eu de victoire du côté de Marseille à la maison. Et c'est très impactant, ça. On sait aussi que les réactions sont exacerbées quand t'es à Marseille. C'est-à-dire que quand t'es au top, tu bats Paris, t'es champion du monde.
Toi, t'adores ça, en plus.
Et moi, j'adore. Et c'est ce qui fait le charme de ce club, de cette ville et de cette ambiance. Mais de l'autre côté aussi, quand ça commence à perdre, on a entendu, il y a des sifflets qui commencent à arriver. Donc, il va être de plus en plus
sous pression. Le public marseillais est exigeant.
Marseillais est exigeant sur la forme, mais aussi sur les résultats, pardon, mais aussi sur le contenu. Et le contenu, effectivement, ne rassure personne. Donc, je me dis, alors, évidemment que, comme d'habitude, vous avez choisi une question qui nous fait débattre parce que je trouve que c'est un peu exagéré qu'ils soient en danger sur.
On dit pas qu'il est en danger sur son poste, hein. C'est pas l'idée, hein.
Mais réellement, il y a un vrai danger dans le sens où je pense que, les supporters, les fans.
Oui, c'est ça.
Le c'est ça l'idée. L'entourage proche. Et puis l'entourage proche, il y a le vestiaire.
Oui, bien sûr. Et le fait qu'ils reviennent sur ces déclarations.
C'est ça.
Je trouve que c'est un symbole fort, quand même.
Alizé. Donc, quand on dit jouer gros, en fait, on parle du potentiel désamour des supporters. On parle du manque de confiance que pourraient lui témoigner les joueurs, petit à petit. Mais en fait, c'est quoi jouer gros? Qu'est-ce qu'il pourrait craindre au pire?
Alizé, à Marseille, si tu perds le public, t'es sous pression non-stop, hein, parce que il t'arrête dans la rue. Alors, ta vie n'est plus la même.
Moi, du coup, je n'ai jamais suivi autant l'OM depuis que je bosse pour les grandes gueules du sport. Et j'ai l'impression que De Zerbi est tout le temps sous pression. Enfin, c'est vraiment une.
Mais c'est le métier qui veut ça.
Mais donc, du coup, un peu plus, un peu moins, j'ai l'impression qu'il kiffe de toute façon.
Non, je crois qu'il y a une différence. Vraiment, il y a une limite où tu kiffes la
Et
pression.
Et vous pensez que cette limite, elle serait franchie si jamais il y avait une contre-performance contre Brest?
Non, mais ça peut annoncer un danger. Ça peut annoncer un moment.
Un danger
justement,
comme quoi? Je veux que tu étayes, Fred. Mais
je suis en train, mais si tu ne coupes pas sans arrêt, je pourrais me exprimer.
Tu parles de couper, le roi de couper la parole.
Regarde, avec leur parcours, ils sont deuxième du championnat. C'est Paris ça. Maîtrise moins. Ici, ils avaient fait des résultats un peu plus convaincants, ils auraient pu être premiers. Aujourd'hui, ils prennent pas cette possibilité-là. Donc, De Zerbi, t'as le droit de te poser la question, qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il joue gros? On parle pas d'être viré, mais aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qui va pas pour pas gagner les matchs, pour que, tu sais, un entraîneur sous aboi, des fois, il fait des choses un peu irréelles et des changements et des explications un peu irréelles. Mais j'ai l'impression.
T'es amené à la faute, en fait.
Parce que quand tu commences à justifier ce que tu as expliqué, que tu rejustifies, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu tournes en rond.
Il n'a jamais fait de faute.
Surtout, ça fait deux fois.
Mais si, il en a fait plein, mais.
Ça fait deux fois qu'il va prendre la tête de la Ligue 1 et n'y arrive pas.
Ils l'ont déjà pris la tête de la Ligue 1.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a deux fois où il bute sur ça et tu peux te poser la question à Marseille, quelle pourrait être l'ambiance dans les matchs? Franchement, c'est hyper important. Et Marseille, c'est fou.
Et Flo, il gagne le PSG, c'est les champions du monde.
Flo Germain à Marseille, notre correspondant. Flo, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une trêve internationale derrière. Donc ça peut impacter l'environnement aussi.
Bon, après, tu peux le prendre dans les deux sens. C'est-à-dire que si effectivement ça colle pas et ça va pas ce soir, ils auront 15 jours pour avec sans les internationaux, c'est ça aussi le problème, pour se remettre un peu les idées à l'endroit. Donc ça peut être aussi positif, mais je pense que ça peut être plutôt un poids, dans le sens où à Marseille on a tendance parfois à se faire des idées noires, et 15 jours sans jouer c'est peut-être beaucoup si Marseille fait un nouveau faux pas. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose, c'est que tout va tellement trop vite à Marseille que parfois c'est on en est encore étonné. Moi j'ai écrit un article et on en a fait un sujet sur RMC le 20 octobre où je disais que Roberto De Zerbi vivait sa meilleure période en tant qu'entraîneur de l'OM. J'écrivais et c'était la vérité, hein, que il était, sa cote de popularité était au plus haut à Marseille, parce qu'il y a eu des épisodes Paris, le gros match contre l'Ajax, il a défendu des supporters lors d'un match de championnat où des supporters adverses avaient pas aimé que les supporters marseillais célèbrent le but. Ça avait beaucoup plu aux supporters. Il avait eu sa première banderole. Il y a pas beaucoup de coachs qui ont eu leur banderole, hein. Virage Sud, les ultras avaient eu une banderole pour Bielsa, quelques coachs quand même. Mais De Zerbi a eu sa banderole. Uno di noi, c'était en italien pour dire tu es un des nôtres, un ultra comme nous. Enfin, c'était le 20 octobre. C'est-à-dire qu'il y a eu depuis l'expulsion d'Emerson là pour la simulation au Sporting, et la saison de l'OM a changé. Donc moi je pense qu'il y a encore une capacité de rebond pour lui. Et d'ailleurs la saison dernière, là où il a eu des moments forts qu'il faut saluer, c'est que dans des périodes difficiles, il a su trouver des solutions. Les retiros, le stage à Malmort,
oui,
le changement de système.
Il a su quand même trouver des solutions.
Mais donc Flo, t'es d'accord que le match est important, celui-là, donc.
Ah oui, moi, je pense qu'il est très important.
Il est important parce que je suis sûr que si Marseille s'impose avec la manière ce soir face à Brest, eh bien d'un seul coup De Zerbi va remonter au sommet.
Oui, donc
parce qu'à Marseille
ça va calmer les choses.
Les montagnes russes. Un coup t'es au sommet, la semaine d'après t'es traité comme un
comme un paillasse. Et la semaine d'après, de nouveau, t'es une star.
Mais c'est de Nice,
mais
ça.
Oui, c'est de Nice. Non, mais c'est vrai. C'est,
non, il risque gros dans les deux sens.
Et je pense que s'il n'avait pas offert au peuple marseillais cet espoir en allant battre le Paris Saint-Germain en tout début de championnat et en faisant croire peut-être aux supporters marseillais.
Oui, ça fait monter l'ascenseur émotionnel très haut.
Devenir champion de France, parce que là, ils arrivaient à s'accrocher au Paris Saint-Germain. Je suis sûr qu'ils seraient plus tranquilles. Mais là, c'est monté tellement haut en si peu de temps que les Marseillais ont du mal quand ça redescend. Et puis les choix de Zerbi sont parfois un peu bizarres. Et puis le fait de s'appuyer. Alors je sais qu'il y a eu un scandale face à Atalanta cette semaine
sur l'arbitrage.
Avec l'arbitrage. Mais c'est vrai que chaque fois que l'OM va mal, c'est la faute de l'arbitrage. Ils remettent toujours le joueur la faute là-dessus.
Ils se sont moins énervés. C'est vrai que là, pour le coup, cette semaine, en Ligue des Champions,
je pense qu'on est
d'accord pour dire qu'il y avait des vraies raisons. Patrick, tiens, supporter marseillais, nous appelle au 32-16. Salut Patrick.
Ouais, salut les GG.
Bon, notre débat, c'est de Zerbi joue-t-il gros ce soir? On ne dit pas évidemment qu'il joue sa tête en cas de mauvais résultat, mais auprès de vous, auprès des supporters marseillais, est-ce que son crédit peut être entamé en cas de nouveau mauvais résultat face à Brest? T'en penses quoi?
Ouais, moi je pense pas, parce que quand même salut les GG. On a quand même un stade qui, depuis que De Zerbi est arrivé, on a un stade qui est archi plein à chaque fois, on a une ambiance de feu, tout le monde le dit. Roberto De Zerbi soit, eh bien, c'est vrai que de temps en temps il y a quelques petites choses à dire sur tout ce qui les remplacements, les changements, l'option de jeu peut-être, mais bon quand même il faut. Comme le disait Flo tout à l'heure, autant ce soir, il y a un gros match, et puis De Zerbi, c'est un dieu. Autant, le problème, c'est qu'en ce moment, on a quand même énormément de choses qui vont un petit peu, on trouve à l'encontre de nos joueurs. Bon, alors on peut parler de l'arbitrage, soit, mais si vous regardez quand même combien de buts normaux sans être contré par un joueur, sans être contré le pauvre Pavard qui est quand même.
Mais Patrick, c'est l'effet de jeu là. Mais oui. T'es satisfait du contenu, toi là, à l'instant T sur les dernières semaines, c'est moyen quand même.
Mais c'est tout à fait moyen. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. On comprend tous que le gros souci, c'est que avec un contenu comme on a maintenant et un arbitrage qui passe à peu près proprement. Derrière, peut-être on ne le perd pas le match. Et si on ne perd pas le match, le débat que vous avez aujourd'hui, on ne l'a pas.
Et dis-moi, Patrick, ça monte à Marseille?
Non, je pense que non. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que si jamais ce soir on a un match avec un contenu qui, même s'il n'est pas exceptionnel, mais si jamais on gagne, sincèrement, on est quand même en tête du championnat en attendant les autres résultats. Mais. Après, je sais pas, non, le stade il sera plein, le stade, les supporters ils seront derrière l'OM comme à chaque fois. Voilà,
Et à 19h, l'OM sera peut-être leader de Ligue 1 en plus.
C'est ce qu'on disait. Donc,
on est clairement sur le type de match, Patrick, que tu dois connaître, toi, en tant que supporter. C'est le genre de match où le Vélodrome va être derrière son équipe avant le match. Ça va pousser fort. Par contre, c'est typiquement le genre de scénario où si Marseille est mené, ou si à la mi-temps il y a nul, si ça ronronne, là, ça va siffler, il y a de l'impatience. On connaît ces scénarios-là. Et effectivement, le Vélodrome va contenir son impatience, mais c'est vrai qu'il y a une pression un peu plus forte que d'habitude par rapport au dernier match.
Vite ce soir, vite pour éteindre toute
fragilité en tout cas. Et oui, le Vélodrome est un personnage à part entière, on le sait, à Marseille, où il faut l'enflammer justement.
Non, dans les critiques, en termes positifs. Ouais.
Merci Flo, Florent Germain, merci Patrick, qui est également au 32-16 de nous avoir appelé. Le supporter marseillais, De Zerbi joue-t-il gros OM Brest ce soir? Vous dites oui à 55%. Un petit point en plus, c'est Cédric Evans qui a donc réussi à avoir le peuple.
Ah, pour une fois, avec gagne quelque chose.
C'est triste à mourir, ça.
Ouais, c'est dur.
Il n'a pas inclus avec lui.
C'est vrai que Fred est monté dans le train.
Briliste,
en fait, je suis tellement peu habitué à te voir
tu vois, être un peu convaincu.
D'accord avec quelqu'un, mais surtout peu habitué à le voir, d'accord avec quelqu'un.
Je suis jamais d'accord avec quelqu'un.
Je vous rappelle ce soir.
Il se ramollit un peu quand même. C'est plus le fait qu'on l'a connu, quoi.
Je me rapproche de toi, Christophe.
Fais gaffe, il n'y a pas un retour d'âge.
Ce soir, donc, je vous rappelle, l'After Foot, ce sera exceptionnellement à 23h30, hein, après la grande soirée de rugby France-Afrique du Sud que va animer Christophe tout à l'heure de 20h à 23h30. Je vous rappelle les matchs à suivre aujourd'hui. Il y aura Marseille-Brest à 17h, Le Havre-Nantes 19h, Monaco-Lens, un choc aussi, hein, à 21h05. Je compte sur toi pour faire de la place pour Monaco-Lens ce soir, mon cher Christophe. Je vous rappelle qu'hier, Rennes s'est imposé 1-0 face au Paris FC. Dans quelques instants, les amis, on va parler de la guerre des sexes en tennis. Fred Bayes en prend une raquette pour affronter Alizé Cornet.
Okay.
Non, non, on va pas le faire.
Et pourquoi Fred au filet, ça peut être quelque chose.
On va parler.
Ah, je pense qu'il
prend la service filet. Effectivement. Zabalenka contre Kyrgios, ce sera fin décembre. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise pub pour le tennis féminin? On en parle dans quelques instants sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport ce matin avec Alizé Cornet, avec Fred Veil, Cédric Aymans et Christophe Cessieux qui sera aux commandes ce soir de la grande soirée France-Afrique du Sud dès 20h au Stade de France. Il n'a pas dormi, Christophe, je vous réveille, je vous préviens, il est arrivé comme un frelon ce matin. Il remet son oreillette tranquillement.
Petite guépounette.
Il monte en puissance. Ouais, il monte en puissance. Dans un instant.
Il y a le gros frelon là, qui a essayé de m'énerver dans
moi,
c'est
un frelon, lui. Ouais. C'est quoi ça?
C'est quoi? T'es un frelon, asiatique, toi.
Ouais, c'est ça.
Dans un instant, les GG, vous allez me dire j'y crois pas. Vous proposez des choses sur ce week-end. Et puis en fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. On va voir si Alizé, depuis qu'elle est capitaine, va être plus performante dans les jeux. Ah, il y a responsabilité supplémentaire maintenant, peut-être. T'as entendu au tournant?
J'ai aucun espoir.
Remportez votre maillot rugby sport d'époque fabriqué en France aujourd'hui, maillot France 1958. Franchement, très stylé. Celui de la première tournée victorieuse des Bleus en Afrique du Sud. Pour remporter votre maillot sport d'époque, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Tout de suite, les GG, un homme contre une femme sur un terrain. C'est le retour de la guerre des sexes en tennis pour les fêtes.
RMC, la punchline GG.
Et oui, plus de 50 ans donc après la victoire réalisée de Billie Jean King contre Bobby Riggs, le remake de la bataille des sexes aura bien lieu. Ce sera le 28 décembre prochain à Dubaï. La numéro 1 mondiale, la Biélorusse Aryna Zabalenka, va affronter l'Australien Nick Kyrgios, qui est 652e mondial aujourd'hui, qui est absent des cours depuis mars. Ce sera un match exhibition, une rencontre en 3 sets. Je vous explique, en gros, le troisième set, ce sera un peu comme un super tie-break. Hein. Ce sera en quelques points. Je vous donne rapidement des données, c'est important. Kyrgios ne pourra effectuer qu'un seul service, à la différence de Zabalenka, et les dimensions du côté du terrain de Zabalenka seront réduites de 9%. Donc ça aura un terrain un peu plus petit de son côté, donc il n'y aura pas de changement de terrain, j'imagine, de notre côté, sinon ça sera compliqué. Les organisateurs se basent sur des études scientifiques.
Attends, comment ça se passe?
Les punchlines, je vous les donne. Zabalenka a dit ceci: j'ai beaucoup de respect pour Nick Kyrgios et son talent, mais ne vous y trompez pas, je suis prête à donner le meilleur de moi-même. Kyrgios avait dit ceci il y a quelques jours: elle ne va pas me battre, nos services, les femmes, ne peuvent pas les tenir. La classe.
Non, mais il n'a qu'un service.
Les GG, je vous pose la question ce matin, le tennis féminin a-t-il besoin de ça? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pub pour le tennis féminin, ce retour du combat des sexes? Alizé, tiens, j'ai envie de t'entendre là-dessus.
Alors, je ne suis pas fan du concept, mais j'ose espérer que les gens ont assez de recul pour savoir que c'est juste un clin d'œil à l'histoire, une sorte de coup de pub.
C'est pas oui ou non la question?
Oui. Non, mais là, on est dans un débat.
Oui, mais je débat.
Un peu philosophique.
On développe. Ah, moi, tu veux que je dise oui ou non?
Non, mais vas-y.
Ah, d'accord.
Alizé.
Je comprends pas bien l'intérêt de cette bataille. Je la comprends pas, d'autant plus avec ces règles-là et surtout la réduction du terrain. Ça, je trouve ça vraiment, presque humiliant en fait pour Aryna Sabalenka, qui peut très bien jouer et tenir Nick Kyrgios du fond du court. En revanche, la règle du premier service, c'est d'avoir qu'une seule balle au service. Ça, c'est important pour avoir des échanges, parce que Nick Kyrgios, ancien finaliste à Wimbledon, il est quand même connu pour claquer un, deux ou trois aces par jeu.
230 km/h, son plus gros service. service.
Donc là, c'est plutôt cohérent. Par contre, la réduction du cours, ça n'a pas lieu d'être. Et au final.
Mais lisez la bataille des sexes de Billie Jean King, c'est un truc qui était important dans l'histoire du tennis.
Mais c'était sur un terrain normal et au final, il n'y avait pas d'adaptation de jeu.
Le problème, c'est que tu changes les règles. Si tu fais un combat, du moins, déjà, un, moi, je comprends pas. Mais deux, je vois pas l'intérêt. Et trois, c'est les règles, c'est les mêmes pour tout le monde.
Mais c'est pas forcément une mauvaise pub pour le tennis féminin. En fait, c'est ni une bonne pub, ni une mauvaise pub. C'était ça ma réponse. Pour moi, c'est plutôt un clin d'œil à ce qui s'est passé il y a 50 ans avec Billie Jean King Cup. Billie Jean King Cup avec Billie Jean King. Maintenant, je peux plus le dire sans le cup derrière.
Je suis capitaine d'un truc que je n'arrive pas à prononcer.
Exceptionnel, c'est ça. Et au final, voilà, 50 ans plus tard, on en a fait du chemin, les femmes. Maintenant, on a un prize money qui est quasiment similaire à celui des hommes. On a atteint quasiment l'équité. Et en fait, voilà, c'est une sorte de clin d'œil, je le répète, à l'histoire.
Alors, tu le baptises pas comme ça. C'est le match du souvenir, le clin d'œil. Très bien, mais c'est pas la guerre des sexes.
C'est du marketing aussi.
C'est
voilà.
du marketing.
Mais tu le mets pas. Ouais, mais pas la guerre des sexes.
Moi, je trouve ça absolument honteux. J'ai l'impression qu'on méprise les femmes.
Ben ouais,
on se dit, elles sont tellement nulles qu'on va les faire jouer sur un plus petit terrain. Alors lui aura droit à un seul service.
Des balles
en plus. Alors, on va jouer avec Kyrgios qui a fait 6 matchs en 3 ans. Donc
je trouve que ça sert pas la cause.
Quel est l'intérêt de dire, en gros, on fait tout pour adapter pour ces femmes, parce que sinon c'est trop fin.
Zabalenka et Kyrgios sont le même agent d'image et c'est lui.
Moi je trouve ça scandaleux. Quel est le respect pour le sport féminin à ce moment-là?
Pour la réduction du terrain,
la réduction du terrain, c'est scandaleux. C'est comme si tu faisais le Tour de France, tu dis attends, on va vous mettre des roulettes et vous allez faire la moitié du. C'est pas loin d'être ça.
Tu joues les yeux fermés.
C'est scandaleux.
C'est ce qui se passe un peu avec le Tour de France féminin par rapport au Tour de France masculin. Tu les fais disputer la course sur 10 jours au lieu de 3 semaines, sur des étapes qui sont plus courtes, et tu leur fais pas passer l'école les plus difficiles.
Ils sont pas en même temps que les garçons. Ils sont pas en même temps que les garçons.
Non, mais tu peux pas.
Mais là,
tu peux pas non plus. Tu peux pas non plus. Si tu mets Sabalenka face à Alcaraz, elle voit pas le jour.
Mais c'est pour ça qu'il faut pas le faire.
Donc, ils veulent pas le faire, mais ils veulent le faire. Je me rappelle aussi de Lynn Sevon. La skieuse qui voulait faire une descente avec les garçons, elle n'a pas été autorisée. Mais je pense que ça aurait pas été, elle aurait peut-être pas été au même niveau. Donc ils veulent pas que en faisant affronter une femme et un homme, il y ait une rousse parce que franchement au niveau physique, Alizé, je pense que Sabalenka prendrait une rousse contre Sinner ou Alcaraz.
Mais contre les meilleurs du monde, c'est même pas.
Voilà, c'est la meilleure du monde face aux meilleurs du monde, elle n'existe pas.
Là, c'est Nick Kyrgios qui a été blessé pendant quelques temps, qui joue sûrement un peu moins bien qu'à l'époque. Il va y avoir un match du fond du court, il y a aucun doute. C'était juste pas nécessaire de changer certaines règles.
D'adapter la taille du terrain.
C'est cette partie-là
qui me dérange. C'est le fait d'adapter la taille du terrain. Ouais, je trouve que c'est vraiment un signal envoyé comme quoi le sport féminin c'est moins bien.
On est d'accord.
Non, c'est juste différent. Et c'est extrêmement agréable. Et quand vous voyez une Alizé Cornet jouer au tennis, moi ça me faisait plaisir. C'était pas du tennis masculin, c'est du tennis féminin et c'était tout aussi bien.
C'est bien la première chose gentille que tu m'as dite de ta vie, frère.
Ça y est, il est amoureux.
Merci. Je vais pas en profiter. On va revenir sur le sujet. Je prends pas de risque comme ça que tu changes d'avis. Mais oui, cette réduction du terrain, on va pas le répéter. Elle est honteuse. Moi, je ne la comprends pas. En revanche, pour être sûr d'avoir du spectacle, enlever la première balle de service à Nick Kyrgios, c'était essentiel. Et après, on aurait pu avoir un match de qualité du fond de court. Je n'ai aucun doute qu'Arina Sabalenka, à l'heure actuelle, avec ses composantes physiques, avec son tennis, elle peut tenir la dragée haute à Nick Kyrgios.
Mais pourquoi opposer les hommes et les femmes?
C'est un fantasme de buzz.
Ça ne va pas servir la cause des femmes, mais ça ne va pas forcément la desservir non plus.
C'est un coup de com.
Vous pensez vraiment que les gens, si elle perd contre Nick Kyrgios, ils vont dire oh, le tennis féminin, c'est vraiment de la bouse?
Oui, certains.
Moi, je suis persuadé que certains le diront.
Non, mais déjà, la première mondiale face aux 600e. Les masculinistes diront.
Cédric, le 600e, Nick Kyrgios, il joue pas 600 mondial.
Il a été 13e mondial.
Même s'il est un peu diminué, c'est un ancien finaliste de Grand Chelem. Il joue extrêmement bien au tennis. C'est pas un 600e lambda.
Alizé, tu connais les raccourcis quand même. Les gens vont voir. Et effectivement, c'est pas le cas et tout le monde sait que Kyrgios, tous ceux qui se connaissent le tennis, je suis d'accord. Sauf que l'image que vous voulez envoyer, c'est pas seulement aux adeptes de tennis, c'est aux adeptes de sport en général. général et aux personnes lambda. Donc une personne lambda va regarder, va se dire, Kyrgios il est 600e, une fille joue contre lui, ils sont deux obligés d'adapter le terrain, il n'a qu'un service, oui, et en plus elle prend un rouge, une
rouge. Oui, bah, tu l'interpréteras comme tu veux, selon
la place. Alors, autre chose, vous partez du principe que Aryna Sabalenka va prendre une rouge. Moi, je demande à voir.
Si c'est le cas.
Et ce que je comprends pas,
c'est une exhibition, Alizé.
Mais oui, c'est une exhibition. Ils vont faire du show. Ils vont faire le show. Arrêtez de vous enflammer.
Alors, le débat, c'est pas la guerre des sexes. Alors, c'est un show.
Alors, peut-être historique.
C'est ce que je dis depuis le début. Il faut le renommer.
Oui, d'accord.
Là, match d'exhibition, show, en souvenir.
Là, il n'y a rien à prouver au final.
On est d'accord.
Voilà. Tiens, Juan nous appelle au 32-16, fan de tennis. Salut, Juan.
Oui, bonjour à tous.
Bon,
bonjour.
Tu trouves que c'est une bonne ou une mauvaise pub pour toi ce match, ce retour de la guerre des sexes? On va continuer de l'appeler comme ça pour qu'on le comprenne bien, hein, Sabalenka Kyrgios, t'en penses quoi?
Ouais, bah vous parlez de pub, en fait c'est une promotion, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte, parce qu'en fait, si on tient compte du profil des joueurs et des joueuses, maintenant tout est totalement différent, le jeu est totalement différent. Donc je ne vois pas pourquoi Kyrgios... apparaît aujourd'hui d'ailleurs, parce que bon, il est un petit peu loin du tennis aussi, les réalités du tennis, le profil des joueurs de tennis actuellement, comme Sinner, Alcaraz, Zverev, c'est des joueurs avec beaucoup d'élasticité, beaucoup de vitesse. Sabalenka, elle développe un tennis un peu particulier, quoi, elle est très puissante. Enfin, je pense qu'Alizé,
faut se recentrer sur le débat là, je pense.
Non mais
c'est une bonne ou une mauvaise pub pour tennis.
Elle sert à 214 km.
Mais t'as joué contre Sabalenka. 214.
Elle a servi à 214.
Sabalenka a jamais servi à 214.
Alors, je l'ai. Elle a servi à 214 en 2018.
Une panne de radar.
Bon, peut-être que le chiffre est pas bon.
C'est 10% plus grosses serveuses.
Police, ça dépend. 200. Max. Top max.
Max 200.
Ouais. Après, peut-être une balle très rapide ce jour-là.
Elle avait un peu vent dans le dos.
Tu l'as déjà joué, Sabalenka?
Oui, je l'ai joué. J'ai même battu une fois. Il y a longtemps, il y a très longtemps. Elle avait 12 ans.
Est-ce que ce fantasme de faire affronter filles et garçons sur un terrain, toi, t'as joué.
T'as
joué contre des
nuls.
Bon joueur. Jusqu'à quel niveau t'as réussi à les taper, Alizé? Jusqu'à quel classement?
Moi, je jouais sur mon niveau moyen, c'était moins 2, moins 4. Donc négatif.
D'accord.
Après, c'est pour ça que de toute façon, à l'heure actuelle, un 600e mondial chez les hommes bat Sabalenka. De toute façon, mais c'est normal. On n'a pas les mêmes qualités physiques. Oui.
Donc,
on n'a
si
pas
les mêmes sait, qualités c'est de quoi service. L'intérêt de l'exposer. Et en plus, encore une fois, je me répète, mais il faut le dire, le terrain est adapté,
Ouvre ton esprit. C'est un moment de spectacle.
Tu es prête à tout pour le spectacle. Et ben pas moi. Moi, je respecte le sport féminin.
Ça ne devrait pas s'appeler la guerre des sexes, mais c'est une exhibition entre un homme et une femme qui sont deux immenses stars.
À la cuisine. T'as oublié de dire.
Ben oui,
chez vous à la cuisine.
Kyrgios à la cuisine. Exactement.
Ouais.
De toute façon, il joue plus au tennis, Kyrgios.
Allez, c'est le mot de la fin.
Non, c'est bon, j'ai fini.
Je boude.
Non, j'allais juste dire que c'était juste un combat sur un terrain comme un autre entre deux immenses stars du tennis qui sont très populaires. Et au final, presque détachons-nous du sexe des protagonistes. Voilà, on va pas revenir. Mais
Kyrgios va faire le buzz,
la réduction du cours. Sabalenka, moi je pense, aurait dû dire non, mais les gars, vous allez pas me réduire le cours, je vais jouer sur un cours normal. Et là, ça aurait peut-être juste clos le débat. Voilà.
Bam! Bah, vous avez compris, le débat est clos. Alizé, voulait voir Sabalenka sur un terrain normal.
Ouvre ton esprit. Open your mind, Fred. Vas-y.
Allez, tout de suite.
Conscience, s'il te plaît.
Et que Kyrgios reste chez lui à la cuisine.
Ouais, les amis, vous allez me dire, j'y crois pas. On en parle dans quelques instants avec les grandes gueules du sport. À tout de suite. Ouvrez vos esprits, s'il vous plaît.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, c'est chaud. Hein,
j'ai choqué Fred. Ah. J'ai perdu les points, tous les points accumulés depuis deux émissions, je les ai tous perdus.
Elle prend toutes les pièces.
Mais déjà, j'en avais pas beaucoup déjà.
Alizé Cornet, Cédric Evans, Christophe Cessieux.
C'est vraiment nul cette idée. Franchement, de la guerre des sexes, c'est nul. Voilà, c'est bon. Voilà.
Allez les amis, tout de suite. Tiens, je vous rappelle qu'on fait gagner des places pour France-Ukraine. France-Ukraine, éliminatoire de la Coupe du Monde. Jeudi 13 novembre, pour remporter vos places pour France-Ukraine, envoyez France au 7-32-16. France au 7-32-16. Tout de suite, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois, j'y crois pas.
Tiens, on va commencer par un j'y crois pas qui n'était pas forcément prévu. J'y crois pas. Julia Simon, en biathlon, condamnée pour vol et fraude à la carte bancaire, pourra participer aux JO d'hiver de Milan Cortina. Julia Simon va revenir et être championne olympique. J'y crois pas.
Pardon.
Alizé, j'y crois pas.
Bah, j'y crois, hein, possible. Hein.
Fred.
Bah, c'est possible.
C'est championne olympique, oui, mais pourquoi l'avoir sélectionnée ?
Christophe ?
Bien sûr qu'elle va être championne olympique.
Je rappelle, souvenez-vous, la Française 10 fois championne du monde de biathlon a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende dans l'affaire de fraude à la carte bancaire à la suite de plaintes qui remontent à 2022 de membres de l'équipe de France. La commission de discipline de la Fédération Française de Ski l'a suspendue 6 mois, dont 5 avec sursis cette semaine. En fait, cette sanction lui fera uniquement manquer la première manche de la Coupe du Monde de biathlon le 29 novembre à Östersund en Suède et ensuite elle pourra revenir.
C'est une sanction un peu à la Sinner.
On parle de com, exactement. On était dans la com tout à l'heure, là quand même on est en plein dedans.
J'y crois, championne olympique, Christophe.
Ah bah oui,
maintenant. Je voulais absolument en parler. Donc on
maintenant qu'elle est sélectionnée pour les Jeux Olympiques, elle va l'être. Mais d'ailleurs, ils ne pouvaient pas faire autrement, la Fédération Française de Ski. Tu as dans tes rangs l'une des deux, trois meilleures biathlètes mondiales.
10 fois championne du monde.
10 fois championne du monde. Tu as les Jeux Olympiques, tu sais que c'est une compétition politique s'il en est. Tu sais qu'il faut faire des médailles, le plus de médailles possible pour avoir derrière les subsides de l'État. Donc tu mets les meilleures. Et même si les meilleurs ont fait des conneries, eh ben on s'arrange pour mettre les conneries sous le tapis.
Tu as dit pourquoi l'avoir sélectionné ?
De prendre une décision, c'est une fausse sanction.
Quelle ambiance dans cette équipe, du moins.
Alors, c'est le seul truc, c'est ça.
Le truc, elle est capable. Elles vivent ensemble déjà. C'est déjà le cas.
Oui, mais
ça fait longtemps.
Elles ont continué à vivre ensemble pendant l'affaire, pendant l'instruction, et ainsi de suite.
Pendant plusieurs saisons.
Pendant plusieurs saisons. Elles ont aussi bien performé depuis plusieurs
saisons. Oui, mais moi, c'est le côté, du moins, psychologique. Du moins, je pourrais pas. C'est un truc, c'est pas possible.
Si tu avais dans ton équipe, par exemple.
Si Fabien Galthié t'avait piqué tes thunes, tu pourrais plus jouer avec lui, par exemple.
Ah non, mais ça serait compliqué dans le vestiaire. En tous les cas, je pense que le groupe entier ferait comprendre que c'est pas possible.
En l'occurrence, ça a été très chaud au début. Ouais. Ça a été très chaud quand elle est revenue, quand les fonds ont été avérés. Donc elle a été vraiment mise de côté, Julia Simon. Mais derrière, les choses se sont à peu près arrangées. Mmh. Aujourd'hui, ils disent bonjour, bonsoir. C'est pas la franche amitié, mais elle se tolère et Justine Breza a accepté que Julia Simon soit toujours là. Donc,
on ne sait pas ce qu'elles se sont dit. Et elle a une sanction. Elle est comme elle est. Effectivement, on peut la contester, nous, mais en tous les cas, elle était acceptée par tout le monde. Elle va purger sa sanction. Moi, je suis pour la deuxième chance.
Okay. Mais la sanction a déjà été purgée, en fait. Enfin, quasiment en entier.
Ramenez-nous une médaille d'or, j'ai envie de dire.
Stage de l'équipe de France.
Et un doublé avec Justine et toutes les deux sur le
podium. Et qu'elles s'embrassent toutes les deux.
Et puis elles font la médaille et elles la rendent.
Elles sont en compétition aussi en relais.
Qu'est-ce qu'elle a dit ? Dis, Alizé.
Je dis, elles font la médaille et elles la rendent aux autres.
Tiens, c'est pour toi.
Aux autres.
Cadeau. C'est ça.
Cadeau.
Allez, on zappe. J'y crois pas, les amis du tennis, tiens, Alizé. Novak Djokovic va gagner le tournoi d'Athènes aujourd'hui à 16h face à Musetti et renoncer au ATP Finals. Vous savez, c'est l'ancien Masters où les 8 meilleurs du monde se retrouvent à partir de demain. J'y crois pas, Alizé.
Eh ben, j'y crois qu'il peut gagner Athènes, mais j'y crois pas qu'il va renoncer au Masters.
Fred ?
Je le souhaite.
Cédric,
il va gagner et il va aller au Master.
Christophe,
pareil, il va gagner, il va aller au Master parce qu'il a besoin de rythme et on sait que en plus sur ce format-là, en 2-7 gagnant, il peut-être battre certains des cadors qu'il n'aurait pu abattre du tournoi du Grand Chelem. Et puis surtout, il faut qu'il entame sa préparation pour l'Australian qui restera sans doute la dernière chance de remporter son 24e Grand Chelem. Donc il a tout intérêt à aller.
Exactement.
Si les sensations sont bonnes.
C'est un tout petit peu plus, on va dire.
Parce que
c'est un peu moins demandeur le gazon que le dur physiquement. Et il joue encore très très bien sur gazon, Djokovic.
Après, si les sensations sont là, il va gagner. Si les sensations sont là, pourquoi.
Après,
moi, c'est juste une question de sensation. Je pense que le risque, c'est de se dire je suis bien, j'y vais, et là, t'as une déroute et ça se passe pas bien et compliqué.
Et surtout physiquement, parce qu'il a quand même calmé le jeu depuis un moment. Il a disputé que 4 tournois, cette année.
Moi, je souhaite qu'il n'y aille pas. Vous savez combien j'aime Djoko et je pense qu'il est plus au niveau de gagner ce genre de compétition. Alcaraz, il est au-dessus de lui, il le sait.
Oui,
se déplacer pour faire encore une fois. Moi, c'est ce que je souhaite.
Mais Novak, il ne va pas se cacher. C'est pas ce genre de personne.
Ben oui, mais j'aimerais bien qu'il se cache un peu.
Tu te rends compte qu'à 37 ans, il a encore le niveau pour aller au Masters?
Moi, je voudrais qu'il soit en retraite.
C'est incroyable.
Je voudrais célébrer, je voudrais avoir le maillot Joka.
Est-ce que tu vois, ce genre d'attitude, c'est un peu petit bras. Tu vois, c'est je sais que je ne peux pas gagner, alors je ne vais pas y aller. C'est quoi cette attitude?
Ça suffit, tu sais que tu ne vas pas gagner. Pourquoi te fatiguer?
En tout cas, s'il n'y va pas, c'est sûr qu'on ne le saura jamais, ni lui, ni nous, ni personne. Hein. Je veux dire, sur 2-7, comme l'a dit Christophe.
C'est pas la question.
Très justement, répond
directement à la question.
Sur 2-7, il a plus de chances de les battre.
Il a plus de chances, ça veut pas dire qu'il va gagner.
Que les grands champions.
Il y a une vraie possibilité.
Mais évidemment, le sport n'est pas une science exacte.
La différence entre la Warrior et le mec qui, bon, on va pas y aller, on va pas prendre de risque.
C'est Joko, et que parce qu'il est tellement haut et qu'on l'a vu, il est très en difficulté contre le top joueur.
Là, vraiment, pour le coup, c'est toi qui me déçois. Je ne comprends pas du tout cet état d'esprit.
Alors, je pense qu'il sait qu'il ne va pas gagner. Et personnellement, parce que je l'aime, pas parce qu'il était à sa place. Hein. Je dis parce que moi, je l'aime, j'ai pas envie de le voir encore subir.
Moi, je donne le point à Alizé, là. Je suis entièrement d'accord avec Alizé.
En tout cas, ce que je voulais souligner, c'est que ce dimanche, il se passe beaucoup de choses. Puisque si Novak Djokovic gagne, il qualifie Félix Auger-Aliassime pour les Masters, tandis que si Musetti gagne contre Novak, pour le coup, Novak peut sauver Félix Auger-Aliassime dans l'histoire.
Il a des risques de perdre sa quatrième place, Djoko, là, si il va pas au Masters. Parce qu'on sait que c'est important pour l'Australien,
pour l'Australie,
dans les
cartes. Je ne sais pas.
Tu sais pas.
Non.
Le monde a peur. Est-ce que Novak Djokovic va perdre sa quatrième place mondiale? En tout cas, Fred a peur.
De toute façon,
ils veulent le voir dans une chaise roulante, tranquille au bord du lit.
Ils veulent voir fêter sa retraite.
À un moment donné, s'il veut regagner un grand chelem, il va falloir qu'il batte Sinner ou Alcaraz, voire les deux.
Et bien, il doit avoir le 5e grand chelem, effectivement. Voilà. On n'aura pas eu le temps de parler, mais il y a de la Formule 1 également. Je vous rappelle, tout ce week-end, Grand Prix du Brésil. Départ de la course sprint à 15h, les qualifs à 19h. Demain, le Grand Prix. On va en parler notamment des McLaren. Norris est en pôle de la course sprint. Hein. Piastri 3e, Verstappen 6e. Jean-Luc Roy sera au commentaire tout le week-end. Et on va en parler dans les grandes gueules du sport. On revient dans un instant pour la dernière heure avec Alizé Cornet, Fred Weiss, Christophe Cessieux et Cédric Clément. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.